De nouveau aujourd'hui, nous avons le visage de Dieu qui se découvre à nous. Donc hier, nous le trouvions consolant et avec une sollicitude, une inquiétude à notre endroit tout à fait particulière, très importante. Et nous l'avons découvert comme berger. Aujourd'hui, le visage de Dieu est à nouveau décrit comme un créateur. Celui qui a créé les étoiles et qui leur donne leur nom. À la vigile pascale, nous lirons le livre de Baruch, et où on nous dira, il appelle les étoiles et il leur donne, et elles répondent, joyeuses, nous voici. Cette obéissance de la création qui n'a pas d'âme spirituelle, c'est assez bouleversant. Autrement dit, ça fait un peu penser à la phrase de Victor Hugo, hein. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Inanimé veut dire qu'il n'a pas d'âme. Voilà. Pour montrer la puissance de Dieu, où la nature elle-même répond à son créateur, ce qui est tout de même très impressionnant. Et alors, nous découvrons encore quelque chose sur Dieu. Je prends juste quelques morceaux. Hein. Un Dieu qui ne se fatigue pas et qui ne se lasse pas. C'est une découverte assez impressionnante parce que dans le même livre d'Isaïe, je crois, nous l'entendrons plus tard. Isaïe dira, vous n'en avez pas marre de lasser mon Dieu. Alors c'est une manière humaine de parler de Dieu, évidemment, et en fait nous découvrons que Dieu ne peut pas se lasser, c'est absolument impossible. Nous pouvons nous lasser, mais Dieu ne le peut pas. Donc là, c'était la sollicitude du prophète, et ici nous découvrons donc un Dieu qui ne peut pas se lasser et qui non seulement prend donc la brebis sur ses épaules, comme nous l'avons entendu hier, mais qui ici rend des forces et de la vigueur. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir des forces de Dieu et de la vigueur? Ou est-ce que nous cherchons à trouver par nous-mêmes notre force et notre vigueur? Autrement dit, est-ce que notre espérance est vraiment placée au bon endroit, ou est-ce que nous sommes dans l'espoir? L'espoir, c'est quelque chose d'humain. L'espérance, c'est quelque chose de surnaturel. L'espérance, ça se reçoit de Dieu. Et alors, nous avons un bel écho de ça dans la collecte de la messe du jour. Dans ta bonté, ne permet pas que la faiblesse nous accable, nous qui attendons d'être réconfortés par la présence du médecin qui vient du ciel. Vous voyez, Dieu comme un médecin, quelqu'un qui vient soigner, prendre soin et soigner. Et alors, nous avons encore une fois un bel écho de ce visage de Dieu qui nous est révélé par Jésus dans l'Évangile, avec la fameuse phrase « Prenez sur moi mon joug ». Voilà. Et en fait, la question qui peut se poser pour nous, parce qu'elle peut être un peu culpabilisante, hein, on peut dire « Oui, c'est gentil, moi je n'ai pas choisi les ennuis qui m'arrivent hein. ». Précisément, ça n'a rien à voir. S'il s'agissait de choisir les ennuis qui nous arrivent, quel mérite aurions-nous ? Il s'agit de voir comment nous allons vivre les choses qui nous arrivent. Est-ce que nous allons les vivre dans l'inquiétude, dans l'espoir ou le désespoir, donc de façon horizontale, en mesurant nos petites forces, notre résistance, en nous arrêtant sur notre image, Quelle image je vais montrer aux autres si je réagis comme ça sur nos projets, c'est ce que je veux faire, voilà. Voilà mon idée de ce que je veux devenir. Moi, quoi. En clair, il y a d'abord moi, mon projet. Et nous oublions très souvent que, comme le dit la Bible, les premiers mots de la Bible en français, c'est au commencement Dieu. Au commencement Dieu créa le ciel. Au commencement, il y a Dieu. Il n'y a pas d'abord moi, il y a d'abord Dieu. Alors c'est une conversion. Ce ne sont pas des belles paroles que je dis, hein. C'est une remise en cause, c'est un détachement. C'est un détachement. Je n'aime pas l'expression lâcher prise parce que je trouve ça ridicule. C'est suicidaire de lâcher prise. On ne lâche une prise que quand on a autre chose. Le détachement, c'est autre chose. Le détachement, c'est pas de ne pas être cramponné à quelque chose. C'est de laisser quelque chose s'en aller, se dissoudre. Il me semble que ça n'est pas la même chose. Et donc, quel joug choisissons-nous vraiment? Alors, dans le message de Jésus, il y a quelque chose de tout à fait fascinant, c'est que on est très très loin de l'observance, des observances judaïques qu'imposaient les rabbins. Vous vous souvenez des paroles de Jésus, vous faites, mettez des fardeaux sur le dos des gens et vous n'essayez même pas de les bouger du doigt, dit Jésus aux pharisiens. Là, il n'y a rien de semblable. Qu'est-ce qu'au fond Jésus nous demande? Est-ce qu'il nous demande des pratiques? Est-ce qu'il nous demande des services? Est-ce qu'il nous demande des sacrifices pour devenir enfin digne de je ne sais pas très bien quoi? Pour être à la hauteur, embêtant d'être à la hauteur parce que Jésus a pris la dernière place. Donc, si on est à la hauteur, on va sûrement le manquer. Voilà. En fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la vraie question qui est derrière tout ça. Et pensez-vous qu'il se soit fait homme, petit enfant, pour demander des comptes? Pour tenir des registres. Jésus dira à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur. Alors moi, je veux être au service de Dieu. Pas d'abord. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Un ami peut rendre service. Mais un ami, c'est d'abord un ami. On est content d'être en sa présence, il est content d'être en notre présence. Alors c'est très difficile, parce que c'est très facile, quoi. Et les choses faciles, ça ne retient pas notre attention. Parce qu'il s'agit de rien faire, il s'agit d'être. Il s'agit d'être disponible pour une amitié. Alors vous pouvez réfléchir, surtout si imaginez que vous ayez à rencontrer quelqu'un un de ces jours, voilà. Et puis on vous a dit, tiens, bah, ce serait bien que tu puisses rencontrer quelqu'un. Je pense à quelque chose de bien précis, hein, de deux amis qui ne se connaissaient pas, qui étaient assez doués dans leur domaine chacun, deux de mes amis. Et un jour, raconter ça. Un jour, on leur a dit, mais tu devrais rencontrer un tel, et à l'autre, on disait ça aussi, etc. Bon. Puis finalement, ils se sont rencontrés, alors un peu inquiets on avait dépeint l'autre comme un monument, quoi, vous voyez. Et ils se sont super bien entendus, quoi. Ils ont découvert une complémentarité, voilà, ils étaient contents d'être ensemble. Bon, voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une disponibilité pour l'amitié. Comprenez que si votre relation à Dieu, c'est qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, y a moi, il y a moi, il y a moi, il y a moi. Et puis faire, 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 faire. Ce qui est extrêmement désespérant parce que il est probable que vous n'arriviez pas à faire ce que vous voulez faire. Et en fait, ce n'est pas ce que Jésus demande dans l'Évangile. Est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu veux bien que je sois ton ami? Et là, on peut être un peu désarçonné, parce que comment ça, Dieu ne demande que ça? Dieu ne demande que ça. Mais regardez la Vierge Marie. Regardez la Vierge Marie. Si elle avait été dans ce rapport de « que dois-je faire ?» etc. à l'Annonciation, ça ne se serait pas passé comme ça. Quand l'ange lui aurait dit « l'Esprit-Saint viendra sur toi », elle aurait répondu « moi, tu ne m'as pas regardé ». Vous voyez, « moi, moi, moi ». Voilà. Donc, c'est vraiment une grâce à demander. Hein. Surtout, c'est tellement à l'opposé de notre monde actuel que c'est difficile d'entrer dans cette, j'allais dire, dans cette insouciance, laissons nos soucis à Dieu, laissons Dieu avoir souci de nous, voilà ce que je veux dire. Hier, en voyage, j'évoquais l'étymologie des mots en disant, voilà, l'inquiétude de Dieu est inquiet de nous, il est où, il est passé où, qu'est-ce qui est comme... voilà, il ne tient pas en place quand il pense à nous, vous voyez, il ne tient pas en place. Tellement il désire notre amitié, notre présence. Sa joie est d'être au milieu des enfants des hommes. C'est ce qu'on dit de la sagesse. Voilà. De jouer au milieu d'eux. Seulement, c'est tellement éloigné de ce qu'on a cru qu'il fallait qu'on fasse, de ce qu'on a cru, de ce qu'on nous a dit, de l'image qu'on a, de la représentation que nous avons de Dieu. Ça ne fait pas très sérieux. Qu'est-ce que les gens vont penser? Enfin, tous ces trucs-là qui sont épouvantablement destructeurs de liberté. Donc, pour chacun, il y a un moment où ça se présente. Hein. C'est difficile, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Dieu ne demande rien d'autre que d'être notre ami. C'est pour ça qu'il y a une proximité avec les enfants. Souvent. Mais les enfants, voilà, attention, un enfant, ça peut être très égoïste, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, l'enfant, il y a une certaine naïveté dans l'enfance. Et il faut que nous retrouvions cette naïveté, qui est bonne, qui est l'absence de la méfiance, qui est le premier fruit pourri du péché originel. J'ai eu peur car j'ai entendu ton pas, quoi. On est sorti de la relation d'amitié que Dieu voulait tisser avec nous. Donc le temps de l'Avent, c'est vraiment d'une préparation à cette amitié-là. Devenir l'ami de Jésus. Devenez l'ami de Jésus. Voilà, donc rien de culpabilisant là-dedans, même si la tentation de la culpabilité peut être très grande. Alors je pense en particulier à des convertis qui peuvent avoir des exigences très très grandes sur le faire. Ce qui est normal, on se raccroche à des actes. Mais ce que je veux dire, c'est que le faire, il vient après l'amitié. Quand on est ami, on peut se rendre service, même des très grands services. Mais ce n'est pas pareil que si vous êtes esclave. Vous voyez ? Si vous êtes esclave, vous rendez un service parce que c'est votre devoir. Si vous êtes ami, vous rendez un service parce que vous aimez. Je crois que c'est vraiment vers ça que Dieu nous invite à aller. Alors allons-y.